La chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.
Bonjour, bienvenue dans le magazine Nature. Aujourd'hui, nous accueillons Sherazade Zeter, autrice de l'ouvrage Manifeste de la corruption environnementale, l'arc-en-ciel du mensonge, mais également juriste, enseignante et conférencière. Bonjour Sherazade.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, Sherazade Zeter, je suis juriste, spécialisée en droit international des affaires et aussi en développement durable. Je travaille à Limoges, j'y suis née et j'enseigne à l'Université de Limoges, l'École supérieure de commerce de Limoges.
Vous êtes ambassadrice du Pacte européen pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
Bien sûr, la Commission européenne a mis en place le Pacte vert en 2019. Et pour promouvoir le Pacte vert et surtout le côté climat, il y a des ambassadeurs qui ont été choisis par la Commission européenne. Donc ce sont les ambassadeurs européens pour le Pacte du climat dont je fais partie. On est à peu près une cinquantaine en France pour promouvoir toutes les actions pour lutter contre le réchauffement climatique.
Et comment vous êtes choisie du coup ?
J'ai postulé, j'ai candidaté. Chaque année, il y a sur le site de la Commission européenne, il y a un appel à candidature. Et j'ai tout simplement candidaté et j'ai été retenue.
Et est-ce que quoi les critères de sélection du coup ?
Les critères de sélection, c'est déjà qu'il faut s'intéresser à la protection du climat.
Évidemment.
Et évidemment, moi, je m'intéresse à la protection de l'environnement depuis plusieurs années, puisque je suis également formée en droit de l'environnement. J'ai un troisième cycle en droit de l'environnement que j'ai obtenu ici à Limoges il y a près de 25 ans, donc ça date. Et je suis engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de l'environnement, la préservation de l'environnement depuis vraiment, 20 ans, 25 ans.
Et votre dernier ouvrage s'intitule donc « Le manifeste contre la corruption environnementale ». Est-ce que vous pouvez nous en parler et surtout définir ce que c'est que corruption environnementale ?
Oui, alors ce n'est pas mon dernier ouvrage puisqu'il a été publié l'an dernier en juin 2024. Le dernier va sortir le mois prochain. Mais ce livre, je l'ai écrit en 2023. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai écrit. Et j'avais écrit en fait un article en 2020 qui parlait des liens entre la corruption et la criminalité environnementale. Moi, je m'intéresse à la lutte contre la corruption depuis des années. Et puis, la corruption, toute forme de corruption, et généralement, c'est celle que je connaissais le mieux, c'était la corruption dans le monde des affaires, puisqu'en tant que juriste d'affaires, j'étais confrontée à cette corruption de façon permanente quand je travaillais en Asie. Je travaillais plusieurs années en Asie dans des cabinets d'affaires. Et là-bas, c'est tout simplement la corruption, elle est endémique. C'est-à-dire que vous allez dans la rue et puis forcément, un policier va vous demander un peu d'argent pour pas que vous ayez à payer une amende fictive. Vous allez à la poste, on va vous demander de l'argent. Et dans les cabinets d'affaires, c'est encore plus important. Donc j'ai été confrontée à cette première corruption. Mais la corruption environnementale, ça va encore plus loin. C'est une corruption qui est assez récente parce qu'elle est liée à la problématique environnementale, c'est-à-dire à la protection de l'environnement. Et la corruption environnementale, c'est tout simplement une corruption qui consiste à corrompre les fonctionnaires des entreprises ou à utiliser toutes les influences politiques pour échapper aux règles qui sont très strictes de l'environnement.
Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, que vous avez été confronté à la corruption environnementale en Asie du Sud, par exemple ?
De façon personnelle, oui.
Ouais.
Alors, par exemple, je suis restée 4 ans en Cambodge, dans des cabinets d'affaires, et le Cambodge, j'en parle beaucoup dans mon livre, le Cambodge est un pays avec des espaces verts, et des bois, des forêts, notamment des forêts de mangroves, qui sont protégées. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais amie avec le secrétaire d'État au commerce. Le secrétaire d'État, c'est un ministre. Et puis, là-bas, les secrétaires d'État, comme les juges, ils ont des salaires qui tournent environ autour de 600 à 1000 dollars par mois. C'est des salaires élevés pour le pays. Le salaire moyen en Cambodge, c'est 100-150 dollars par mois. Donc 600 dollars, 1000 dollars, c'est déjà beaucoup. Mais ce secrétaire d'État, il avait 4 villas de luxe, 4 voitures de luxe, et puis il avait aussi accessoirement 4 maîtresses. Donc moi, je lui ai demandé comment il faisait avec son salaire pour avoir tout ça. Je le savais évidemment, mais il m'a expliqué tout simplement que régulièrement, il recevait des valises, et dans ces valises, il pouvait y avoir entre 500, 1 million ou plus de dollars pour autoriser des licences d'exploitation, pour autoriser des entreprises, et notamment des entreprises chinoises, à s'installer dans des lieux préservés. Des lieux préservés où vous avez des forêts, donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut détruire les forêts, les raser. Et puis une fois que c'est rasé, vous obtenez une licence d'exploitation pour n'importe quelle industrie, pour fabriquer du textile, pour fabriquer de la colle, pour fabriquer n'importe quoi qui peut servir à l'industrie. Et puis ça, c'est fait de façon frauduleuse, en fait. C'est de la corruption, puisque vous donnez un dessous de table qui est assez conséquent pour obtenir une licence d'exploitation pour pouvoir faire tourner votre activité. Voilà, tout simplement, basiquement, la corruption dans un pays comme le Cambodge. Il y en a dans tous les pays. Il y a un autre exemple que je parle au Cambodge, de justement une des personnes qui luttait contre la corruption. Et en 2012, il y avait un défenseur de l'environnement, quelqu'un qui se met devant un entrepreneur, une entreprise ou bien un État pour défendre un lieu préservé ou défendre la construction d'un barrage ou défendre une activité polluante, pollution de l'air, pollution de l'eau. Et bien tous les deux jours, il y a un défenseur de l'environnement qui se fait tuer. Ce qui est assez énorme, sans compter tous ceux qui sont menacés. Et au Cambodge, il y avait justement Chutveti, qui était un de ces défenseurs de l'environnement, qui avait créé une ONG qui défendait les mangroves protégées et les forêts, parce qu'il y avait une corruption qui était très très élevée dans le domaine forestier. Et un jour, en 2012, il va sur une exploitation forestière, où il y avait de la corruption, où il y avait donc les flics qui étaient en accord avec l'exploitant pour raser des zones protégées, et il était parti sur cette exploitation forestière accompagné de deux journalistes du Cambodia Daily. Il est parti accompagné des deux journalistes. Évidemment, l'exploitant avait prévenu la police locale. La police est arrivée. La police a tiré sur Chutveti. Il y a eu plusieurs tirs de coups de feu et Chutveti a été tué. Un des policiers a également été tué. Et donc, les journalistes du Cambodia Daily ont été arrêtés par la presse. Donc voilà carrément un cas où tout le monde est corrompu. On a la police, on a les gouvernements, on a l'entrepreneur. Et ce qui se passe, c'est qu'on a quelqu'un qui est tué et évidemment des zones qui sont protégées, détruites.
Et le fait d'avoir travaillé en Asie du Sud, du coup, vous a convaincu à continuer à parler sur l'environnement ?
Plus que convaincu, parce que le tourisme, qu'est-ce qu'on fait pour faire du tourisme ? On va détruire des zones protégées, le littoral, on va construire dans des endroits où on ne devrait pas construire. Et donc, évidemment, on construit des hôtels et on va détruire des zones où on ne devrait pas aller. Les ressources pétrolières, les ressources naturelles, l'or. J'ai vu à quel point la corruption peut causer des dégâts et surtout que la population en est la première victime. On le voit, j'ai travaillé donc au Cambodge, en Birmanie, en Thaïlande, au Vietnam, en Tunisie aussi. Les gens, ils en ont marre de la corruption. Ils sont victimes de la corruption. La corruption, pas simplement la corruption environnementale, mais toute forme de corruption. Par exemple, l'aide au développement mondial, chaque année, c'est l'enveloppe à peu près 135 milliards de dollars. 135 milliards de dollars, on sait qu'il y a 2000 milliards, voire plus, de dollars qui partent dans la corruption. C'est très difficile, on ne peut pas palper le chiffre exact, puisque l'objectif même de la corruption, c'est que ça se passe sous la table. La corruption, c'est quoi ? C'est du favoritisme, c'est du népotisme, c'est du détournement de fonds. On en parle beaucoup en ce moment, détournement de fonds chez les politiques. C'est des marchés qui sont arrangés. Donc, c'est des accords qui se font entre des services publics ou des élus ou des entreprises. La corruption, elle est partout, à tous les niveaux. Pour amener les preuves des actes de corruption, ça prend du temps. Sans compter que ceux qui sont accusés, ceux qui sont mis en cause, ils vont tout faire pour se faire passer pour des victimes.
Et est-ce que, selon vous, il y a une solution à tout ça ? Est-ce que vous avez des solutions pour que ça cesse ? Est-ce que vous avez de l'espoir quand
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, la première des choses, c'est d'en parler, de prévenir, de former. Il y a des choses qui sont faites, de former sur les conséquences de la corruption. Il y a beaucoup d'agences qui existent. Il y a un parquet financier qui a été mis en place, il y a une agence française contre la corruption qui a été mise en place en France, mais contre la corruption environnementale spécifiquement, c'est très récent. On a commencé à la prendre en compte sur le plan international à partir de 2022, donc vraiment à dire il faut lutter contre la corruption environnementale. Interpol, par contre, Interpol traque la corruption environnementale et la grande criminalité depuis plus de 10 ans. Pourquoi ? Parce que la criminalité environnementale, et la corruption, elle permet cette criminalité environnementale, la criminalité environnementale fait partie des grandes criminalités internationales. On a comme grande criminalité internationale, on a quoi ? On a le trafic de stupéfiants, le trafic de drogue, bon, tout le monde le connaît, c'est la première grande criminalité dans le monde. On a le trafic de contrefaçon, deuxième grande criminalité. Et depuis quelques années, c'est très récent, on a la criminalité environnementale qui est arrivée troisième. il y a 10 ans, on ne parlait pas de la criminalité environnementale. Il y a 5 ans, donc quand j'avais écrit mon article, elle était classée 4e. C'est une criminalité qui monte de plus en plus. C'est de la criminalité qui permet de financer les conflits armés, les groupes terroristes. Ça finance 40% des conflits armés, ça, il faut le comprendre. Pourquoi ? Avec les ressources pétrolières, avec le bois au Cambodge, au Angola, Mozambique, on va avoir des groupes armés qui vont financer l'achat de leurs armes en faisant de la contrebande. On va vendre des ressources naturelles, de l'or, du pétrole, du bois, des espèces protégées, rhinocéros, ivoire.
Vous nous disiez au début de cette interview que vous aviez un autre projet de livre qui va sortir tout bientôt. Oui. De quoi ça va parler ?
Alors, le livre est écrit, il va être publié fin mai chez le même éditeur, chez Éric Bonnier. C'est le grand déplacement, l'exode climatique. Alors, le grand déplacement, pourquoi ? Parce que dans ce livre, je parle de personnes qui se déplacent à cause des catastrophes naturelles, à cause de la dégradation de l'environnement, à cause des constructions des infrastructures humaines qui se dégradent, qui se détériorent ou qui sont détruites, comme des barrages par exemple. Et en fait, il faut comprendre que le grand déplacement, c'est actuellement en moyenne 30 millions de personnes chaque année qui se déplacent à cause d'une catastrophe naturelle. C'est 3 fois de plus que des réfugiés politiques et c'est à peu près 60 personnes par minute qui se déplacent pour fuir un environnement et pour survivre, ce qui est énorme. Et le problème, c'est que ce chiffre, il n'est pas pris en compte par le droit international. C'est-à-dire que ces personnes qui se déplacent en France et dans le monde entier, on voit beaucoup de catastrophes naturelles ici en France actuellement, ce sont des personnes qui n'ont aucune protection juridique. Il y a un vide juridique, elles ne sont pas considérées comme des réfugiés, ce ne sont pas des réfugiés climatiques dont on parle régulièrement. Donc j'ai écrit un livre pour parler, pour expliquer c'est quoi ces personnes qui se déplacent, on appelle ça des déplacés environnementaux, mais aussi pour faire le lien avec toutes les polémiques politiques, médiatiques, parce qu'on a des langages qui sont totalement faussés sur des discours où on fait peur aux gens en disant qu'on va être envahi par des personnes qui fuient les inondations ou les sécheresses, ce qui est totalement faux, puisque la plupart des personnes restent en 80% des cas sur leur territoire, et lorsqu'il y a un franchissement de frontières, elles n'ont qu'un objectif, c'est de pouvoir revenir sur leur propre territoire. Donc je parle des aspects politiques, médiatiques, mais aussi je propose des solutions juridiques et d'autres solutions pour mettre en place des protections pour toutes ces personnes qui fuient ce qu'on appelle les persécutions environnementales.
C'est vrai que j'ai vu qu'en Angleterre, ça arrive beaucoup, beaucoup sur la côte, mais que, en fait, la police ou le droit ou les avocats de ces personnes-là ne font rien parce qu'en fait, leurs maisons ne valent pas assez pour qu'on les reloge ou qu'on les déplace dans d'autres endroits. Du coup, ils achètent des mobilos, mais ils restent là où ils sont, quoi.
Ben oui, et le problème, il est aussi en France. En France, on a le littoral français, on a à peu près 140 000 habitations sur le littoral français qui vont disparaître. On a déjà des maisons, et on parle de, entre guillemets, de réfugiés climatiques. Il y a eu le Signal en Gironde qui a été détruit en 2023. Le Signal, c'est un immeuble qui a été construit en 1967 à 900 mètres du littoral. Avec l'aggravation du réchauffement climatique et la tempête Xynthia qui arrivait en 2010, il se retrouvait en 2014 à 9 mètres du littoral. Donc à 9 mètres du littoral, quand vous êtes dans votre immeuble, eh bien, il faut l'évacuer. Et un exemple de type, c'est le Signal. Les habitants propriétaires ont été évacués, ils n'ont pas été expropriés. Ce qui fait que la différence, c'est que lorsque vous êtes exproprié, vous rentrez dans un cadre juridique et vous avez droit à une indemnisation. Lorsque vous êtes évacué, et là c'était une évacuation parce qu'ils ne pouvaient plus rester chez eux, il y avait un vide juridique. Pendant 6 ans, il y a eu des procès, plusieurs procès pour qu'ils puissent être indemnisés. Finalement, il y a une enveloppe budgétaire qui a été votée en 2019 qui leur a donné droit à 70% d'indemnisation du montant de la valeur de leur appartement. Mais on n'a toujours pas fait de cadre juridique dans ce sens-là. Et il y a de plus en plus, Trefalga, je crois, en Bretagne, il y a un village de 7 habitations-là, très récemment, qui va être détruit. Et on a de plus en plus de logements comme ça qui vont disparaître. Et le problème, c'est que les assurances ne les prennent plus en compte, ne veulent plus. On a bien un fonds Barnier, mais ce n'est pas suffisant pour indemniser les personnes. Donc le problème, il est partout. Il est en France, il est dans des pays qui vont disparaître parce qu'ils vont être submergés par les eaux. Et on a aussi des incendies. Je vais donner un exemple, les États-Unis, incendie qui s'est passé au mois de janvier en Californie. Les coûts de ces incendies ont dépassé déjà les 180 milliards de dollars. Et donc ça, il faut aussi indemniser les personnes. En 2007, aux États-Unis, en Californie, c'était un des plus grands incendies. Il y a eu 500 000 personnes qui se sont déplacées à cause de l'incendie.
Merci beaucoup, Sherazade, d'être venue aujourd'hui pour nous parler de votre livre et plus largement de vos combats environnementaux. On rappelle que votre livre, Le Manifeste contre la corruption environnementale, Arc-en-ciel du mensonge, aux éditions Éric Bonnier, est disponible dans tous vos points de vente habituels et également sur Amazon. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau magazine Nature.
Je vous remercie.
C'était la chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.